Vous écoutez On lit pour vous.
Torture, arrestation, violence, être LGBTQ+, demeure un crime dans une partie du monde. Un texte de Caroline Lavigne, paru le 25 juin 2026 dans Fugue. Alors que plusieurs pays célèbrent des avancées importantes en matière de droits LGBTQ+, des millions de personnes continuent d'être victimes de tortures, de détentions arbitraires et de violences simplement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Amnesty International rappelle que la discrimination demeure l'un des principaux moteurs de ces violations des droits humains. Pour plusieurs personnes LGBTQ+, aimer la bonne personne ou vivre selon son identité de genre peut encore coûter la liberté ou la vie. Dans un dossier consacré aux violences subies par les minorités sexuelles et de genre, Amnesty International dénonce une réalité qui demeure profondément préoccupante. Partout dans le monde, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer sont victimes de tortures, de mauvais traitements, de détentions arbitraires et de persécutions, souvent avec la complicité ou l'inaction des autorités publiques. Selon l'Organisation de défense des droits humains, la discrimination constitue un terreau fertile pour la torture et les violences. Lorsqu'un État criminalise ou stigmatise une partie de sa population, les abus deviennent plus faciles à commettre et beaucoup plus difficiles à dénoncer. Une répression qui traverse les frontières. Ces violences ne se limitent pas à une région du monde. Des personnes LGBTQ+ sont arrêtées, emprisonnées, agressées ou soumises à des traitements cruels sur tous les continents, dans des contextes politiques, religieux et culturels très différents. Dans plusieurs pays, les victimes hésitent à porter plainte par peur d'être elles-mêmes poursuivies, rejetées par leur famille ou victimes de nouvelles représailles. Cette invisibilité contribue à alimenter un cercle vicieux où les agressions demeurent largement impunies. Quand les autorités deviennent les bourreaux, Amnesty International souligne que les personnes LGBTQ+ sont particulièrement vulnérables lorsqu'elles se retrouvent entre les mains des autorités. Dans certains États, les policiers utilisent les arrestations pour extorquer de l'argent, humilier les victimes ou obtenir des aveux sous la contrainte. Les prisons et les centres de détention deviennent également des lieux où les violences physiques, psychologiques et sexuelles sont fréquentes. Mais les persécutions ne proviennent pas uniquement de l'État. Les personnes LGBTQ+ subissent également des agressions dans leur entourage, leur communauté ou leur propre famille. Les lesbiennes, notamment, peuvent être contraintes à des mariages forcés, subir des violences sexuelles dites « correctives » ou être privées de toute autonomie afin de les conformer aux attentes sociales. Une impunité encore trop répandue. L'un des principaux constats d'Amnesty demeure l'absence de justice. Les agressions visant les personnes LGBTQ+ font rarement l'objet d'enquêtes sérieuses et les responsables sont encore moins souvent traduits devant les tribunaux. La peur de dénoncer, combinée à l'homophobie et à la transphobie institutionnelle, entretient un climat où les auteurs de violences agissent souvent en toute impunité. Pour l'organisation, les États ont pourtant l'obligation de protéger l'ensemble de leur population, sans distinction fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre. Des progrès, mais une vigilance toujours nécessaire. Depuis la publication de ce rapport, plusieurs avancées ont été réalisées. De nombreux pays ont légalisé le mariage entre personnes de même sexe, adopté des lois contre les crimes haineux ou renforcé les protections juridiques des personnes LGBTQ+. La réalité demeure toutefois préoccupante. Aujourd'hui encore, près de 65 pays criminalisent les relations sexuelles consentantes entre personnes de même sexe. Plusieurs États prévoient toujours de lourdes peines d'emprisonnement, tandis que certains permettent encore la peine de mort en vertu de leur législation ou de l'application de la charia. Les personnes trans continuent également d'être parmi les populations les plus exposées aux violences, à la discrimination et aux arrestations arbitraires. Pour Amnesty International, La lutte contre la torture passe inévitablement par la lutte contre toutes les formes de discrimination. Tant que des personnes seront considérées comme des citoyennes de seconde zone en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, les violations des droits humains continueront de prospérer dans l'ombre. Plus que jamais, rappelle l'organisation, les droits des personnes LGBTQ+ demeurent des droits humains. C'était Torture, arrestation, violence, être LGBTQ+, demeure un crime dans une partie du monde. Un texte de Caroline Lavigne, paru le 25 juin 2026, dans Fugue.
Effacer l'histoire. Un texte d'Isabelle Picard, paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Au Labrador, l'annulation d'une exposition ravive le débat sur la mémoire coloniale. Notre collaboratrice décrypte les dessous de ce bras de fer dans le cadre duquel certains réécrivent parfois l'histoire. C'est connu, l'histoire est politique. Son interprétation aussi. Prenez les premiers explorateurs étrangers de notre territoire. Selon les Français, Jacques Cartier a, en 1534, été le premier à découvrir de nouvelles terres en Amérique du Nord. C'est ce que j'ai appris à l'école. Si vous êtes plutôt de culture anglo-saxonne, on vous a sans doute enseigné que c'est John Cabot qui, en 1497, atteignait les côtes de Terre-Neuve. Dans tout ce récit officiel, on oublie les pêcheurs basques. On passe vite sur les sagas vikings et encore plus vite sur les premiers habitants de ce territoire. D'accord, les choses ont changé. Il est plus difficile aujourd'hui de faire l'impasse sur l'occupation territoriale millénaire des Autochtones en Amérique. Pourtant, certains gouvernements tentent encore de le faire. Le 21 juin 2029, Journée nationale des peuples autochtones, une exposition devait être inaugurée au Labrador. L'exposition intitulée « Innu Pakasyun », ce qu'on pourrait traduire par « contribution », ne verra jamais le jour. En tout cas, pas dans sa forme prévue. Pourtant, l'exposition était prometteuse. Artefacts provenant du Musée canadien de l'Histoire, consultations des aînés et des porteurs de savoir, travail des historiens et des archéologues. 2 ans de travail. La source du litige tient à ceci. Le gouvernement provincial ne veut pas inclure dans l'exposition une frise chronologique qui fait remonter la présence des Innus au Labrador à plusieurs millénaires, ni, conformément à leur version de l'histoire, établir des liens entre des outils de pierre millénaires exposés et la présence des Innus du Labrador en ce territoire. À leurs yeux, il semblerait qu'accepter l'un, c'est accepter l'autre. Si le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador n'admet pas la présence des Innus sur le territoire depuis des millénaires, à combien d'années l'estime-t-il? La réponse courte, c'est 300 ans. 300 ans? Pourtant, la tradition orale raconte une autre histoire. Les preuves archéologiques pointent également dans une autre direction. D'ailleurs, la plupart des archéologues n'adhèrent pas à la version tronquée de l'histoire qu'est celle du gouvernement terre-neuvien, a déclaré en entrevue à CBC Anthony Jenkinson, un archéologue qui travaille depuis des décennies au Labrador. On parle plutôt d'une occupation continue. Ne voulant pas que l'on taise leur version de l'histoire, les Inuits ont préféré annuler eux-mêmes l'exposition qui aurait permis à leurs 3200 membres d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. L'histoire est politique. Je disais plus haut que l'interprétation de l'histoire est politique. Il faut savoir que les Inuits du Labrador sont en processus de revendication territoriale. Dans sa lettre du 23 juin 2026, rapportée par Radio-Canada et adressée au grand chef de la nation Inuit, Simon Pokwe, ainsi qu'à d'autres dirigeants, le premier ministre terre-neuvien, Tony Wakeham, proposait d'accélérer les négociations sur la revendication territoriale des Inuits en stipulant ceci. Une fois le traité finalisé, il n'y aura aucun doute quant aux droits des Inuits tels que représentés par la nation Inuit. On peut bien penser ce qu'on veut, mais tout ça ressemble, à mon sens, à de la belle et bonne propagande pour manipuler les négos en cours. Si on change la version de l'histoire pour faire passer l'occupation du territoire du Labrador par les Inuits de plusieurs millénaires à 300 ans, qu'on s'entête à admettre qu'un peuple autochtone ne vit pas, en fin de compte, sur le territoire depuis beaucoup plus longtemps que les colons, ça donne toute une marge de manœuvre pour des négociations, ça, non? C'est quoi l'expression déjà? Si ça ressemble à un canard, si ça nage comme un canard et si ça cancane comme un canard, c'est que c'est probablement un canard. Ah oui, c'est ça. J'aimerais me tromper. Quoi qu'il en soit, l'histoire ne s'arrête pas là. Deux manifestations en lien avec ce refus du gouvernement terre-neuvien de changer sa position sur l'occupation du territoire par les Inuits ont eu lieu, forçant l'annulation d'un événement économique d'envergure dans la région, Expo Labrador. Les chefs de la nation Inuit du Québec ont également fait parvenir une déclaration par voie de communiqué en solidarité avec les Inuits du Labrador, dénonçant toute tentative d'ingérence politique dans la présentation des faits historiques liés à la présence immémoriale des Inuits dans le Nitassinan, leur territoire ancestral. C'est parfois fatigant d'être autochtone. On doit redoubler d'ardeur pour tout scruter afin de s'assurer que l'histoire racontée est juste. Parce que les conséquences peuvent être conséquentes, justement. Dans ce contexte, il est normal d'être parfois méfiant. C'était Effacer l'histoire, un texte d'Isabelle Picard, paru le 28 juin 2026 dans La Presse.
Un total de 19 belugas trouvés morts en 2025 sur les rives du Saint-Laurent. Un texte de Alexandre Shields, paru le 18 juin 2026 dans Le Devoir. Les experts s'interrogent sur les changements dans les régions maritimes fréquentées par l'espèce en voie de disparition. Un total de 19 belugas ont été trouvés morts en 2025 sur les rives du Saint-Laurent, mais, contrairement aux années passées, les scientifiques n'ont pas recensé de femelles décédées au moment de donner naissance. Le suivi de l'espèce soulève par ailleurs de plus en plus de questions sur les changements qui s'opèrent dans les secteurs du Saint-Laurent fréquentés par les belugas. Selon les données publiées par le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, RQUMM, le nombre de belugas trouvés morts l'an dernier s'inscrit dans la moyenne des dernières années. En 2025, 10 femelles, 8 mâles et un individu impossible à classifier ont été recensés. Contrairement à ce que les scientifiques constataient chaque année, depuis maintenant plus de 10 ans, aucun cas de dystocie, décès provoqué par des complications lors de la mise bas, n'a été répertorié dans le cadre des nécropsies des bélugas. Transporté à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, qui visait à déterminer les causes de la mort de l'animal. Le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et coordonnateur du RQUMM, Robert Michaud, s'interroge sur cette absence de dystocie. Un phénomène qui inquiète les spécialistes de cette espèce classée en voie de disparition. Lors des dystocies, la femelle et son veau meurent. C'est peut-être un peu trop tôt pour générer une tendance, mais ça pourrait indiquer une diminution de l'occurrence de cette problématique, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Cependant, la diminution des dystocies pourrait aussi être une conséquence d'une diminution des naissances, explique pour sa part Stéphane Lair, professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et directeur du Centre québécois sur la santé des animaux sauvages. M. Michaud ajoute que les données des relevés aériens effectués par les scientifiques fédéraux montrent une diminution du nombre de jeunes et de veaux bélugas observés au cours des dernières années. Il précise toutefois qu'il est difficile d'évaluer la situation de la reproduction de l'espèce qui occupe un grand territoire de l'estuaire du Saint-Laurent. Changement d'habitat? Qui plus est, les experts constatent que des individus et des groupes de bélugas sont de plus en plus présents dans des régions de l'estuaire et même du golfe du Saint-Laurent, où ils étaient moins présents auparavant, voire absents, par exemple en période estivale. L'été dernier, un groupe estimé à plus d'une centaine de bêtes a passé une bonne partie de la saison au large de la pointe de la Gaspésie, soit en dehors de leur habitat estival, qui est principalement au cœur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Est-ce que les bélugas modifient leur utilisation du Saint-Laurent dans un contexte de bouleversement climatique et de changement dans cet écosystème, notamment en ce qui a trait à la disponibilité des proies? Les signes se multiplient, résume Robert Michaud. Il sera important de suivre ces phénomènes. Il est clair que l'estuaire et le golfe changent de façon importante. Il faut savoir qu'en vertu de la loi sur les espèces en péril, le gouvernement fédéral a l'obligation de protéger l'habitat essentiel du béluga. Pour le moment, le parc marin couvre à peine 40% de l'habitat estival du mammifère. Le projet d'expansion de cette aire marine protégée, en cours d'élaboration par Québec et Ottawa, doit permettre qu'elle en couvre la totalité. Cela ne comprend toutefois pas l'habitat essentiel pour le reste de l'année, en plus de ne pas tenir compte des changements récemment observés dans l'occupation du territoire marin. Spécialiste de l'espèce depuis plus de 40 ans, M. Michaud estime que les changements dans les secteurs fréquentés par les bélugas risquent de complexifier notre travail de conservation de l'espèce. Et ça illustre bien nos défis face au climat qui change. Dans le parc marin, il est interdit d'approcher les bélugas à moins de 400 mètres de distance. Or, dans le golfe du Saint-Laurent, cette distance est réduite à 100 mètres. C'est insuffisant, souligne Robert Michaud. Ce dernier appelle donc à la prise en compte du besoin de protéger les bélugas où qu'ils se trouvent dans le Saint-Laurent. Il est important de leur laisser de l'espace pour assurer leur protection, résume-t-il. En plus du dérangement et de la pollution sonore dans leur habitat, les bélugas sont en effet exposés à plusieurs menaces, dont la pollution, les conséquences de la crise climatique et les bouleversements dans leur régime alimentaire. Des projets industriels, comme celui de Marinvest Energy, provoqueraient aussi une augmentation du trafic commercial dans leur habitat. Dans ce contexte, malgré le fait que l'espèce est protégée depuis des décennies, elle ne montre aucun signe de rétablissement. c'était un total de 19 belugas trouvés morts en 2025 sur les rives du Saint-Laurent, un texte de Alexandre Shields, paru le 18 juin 2026 dans Le Devoir.
Une analyse des plaintes rappelle la persistance de la discrimination en milieu de travail, un texte de R. Pratka, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue. Plus ça change, plus c'est pareil. Une analyse de 30 ans de données sur les plaintes en milieu de travail effectuée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, CDPDJ, en collaboration avec l'initiative de recherche Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ, SAVI LGBTQ, basée à l'UQAM, démontre qu'un climat d'exclusion persistante teinte la réalité de nombreux travailleurs et travailleuses LGBTQ+ au Québec, malgré les avancées en matière de reconnaissance juridique. Entre l'égalité juridique et l'égalité sociale et l'égalité réelle, il y a encore une marge importante, mentionne Martin Blais, co-directeur du projet Sa vie LGBTQ. Les protections légales peuvent être en place, mais ça ne signifie pas que les employeurs ont les ressources ou la volonté pour créer un climat d'inclusion favorable. Aussi, ce n'est pas parce qu'on est un employeur qu'on a le contrôle de ce que chacun des employés peut penser, comment il peut agir. C'est compliqué. Le rapport est issu de l'analyse de 769 plaintes déposées à la CDPDJ entre 1994 et 2024 pour discrimination en emploi fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre. Il visait à identifier les situations liées à l'emploi qui amènent des personnes à porter plainte à la CDPDJ pour discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre. Il est à noter que les plaintes venaient exclusivement de milieux de travail non syndiqués, étant donné que les plaintes provenant de milieux syndiqués sont traitées par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, SNEST. Samuel Blouin, chercheur à la CDPDJ et co-directeur de la recherche, mentionne que l'équipe pensait voir plus d'évolution au fil du temps. On s'attendait à ce qu'on continue à avoir des plaintes, mais peut-être qu'elles prennent d'autres formes, qu'elles soient un peu moins frontales, plus subtiles. Mais ce n'est pas ce qui est évident à la lecture des plaintes. Présentes sous différentes formes, propos stéréotypés et moqueries, mégenrage, dévoilement non consenti de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, tolérance passive de comportements discriminatoires par l'employeur. Ces manifestations s'exercent parfois de manière explicite et violente, parfois de façon plus subtile, ce qui les rend difficiles à documenter, résume Jack Duhem, porte-parole de la CDPDJ, dans une déclaration écrite. Les hommes gays, les femmes trans et les personnes travaillant en service à la clientèle ou en contact avec le public sont surreprésentés parmi celles qui portent plainte. La discrimination en milieu de travail peut avoir un impact dévastateur sur la participation sociale et économique des personnes affectées, rappellent les chercheurs. Selon Samuel Blouin, près de la moitié des plaintes concernant la discrimination alléguée basée sur l'identité sexuelle ou de genre concerne les milieux de travail et le nombre absolu de plaintes est en hausse depuis quelques années, particulièrement autour de l'identité et de l'expression de genre. Pour l'orientation sexuelle, le nombre de plaintes a suivi relativement la courbe générale pour tous les autres motifs interdits de discrimination. Mais pour l'identité ou expression de genre, la hausse est beaucoup plus prononcée que pour d'autres motifs. Ça reste un petit nombre de plaintes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles à franchir pour porter plainte. Mais pour l'identité et l'expression de genre, il y a clairement une hausse depuis les 4-5 dernières années. Les motifs possibles de cette hausse seraient multiples selon le chercheur. La reconnaissance de l'identité et de l'expression de genre comme motif spécifique de discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en 2016, la visibilité des enjeux trans dans l'espace public, la sensibilisation au recours et le climat social. Une personne au travail, ce n'est pas seulement une personne employée. C'est avant tout une personne qui est titulaire de tous les droits garantis par la Charte québécoise. Elle a le droit au respect de sa vie privée, au respect et à la sauvegarde de sa dignité, à l'égalité, et ça dans les différents aspects de l'emploi, que ce soit de l'embauche jusqu'à la façon dont elle pourra être congédiée, en passant par la formation et le climat de travail, rappelle Samuel Blouin. Il faut toujours rappeler que c'est la responsabilité de l'employeur d'assurer la sécurité de son personnel, ajoute-t-il. Si ces personnes étaient écoutées d'emblée, probablement qu'il n'y aurait pas eu de plainte. Info, pour en apprendre plus sur le processus de traitement des plaintes à la CDPDJ ou pour consulter le rapport de recherche en ligne, visitez cdpdj.qc.ca. C'était une analyse des plaintes rappelle la persistance de la discrimination en milieu de travail, un texte de R. Pratka, paru le 18 juin 2026 dans le magazine Fugue.